Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série concernant le vainqueur. Et les deux thèmes que nous aurons aujourd'hui, c'est primo, l'objectif chrétien, secondo, la cité céleste. Une chose, je désire ardemment, selon le psaume chapitre 27, verset 4, il est dit, je répète, une chose, je désire ardemment, psaume 27, verset 4, mais une seule chose est vraiment nécessaire. Saint Luc chapitre 10, verset 42, et je fais une chose. Philippiens chapitre 3, verset 13. Tout ce que Dieu fait est simple, mais ce que l'on fait est généralement compliqué. Pour Dieu, une chose est essentielle, je répète, pour Dieu, une seule chose est vraiment nécessaire. Par contre, voyez-vous, avec les hommes, c'est beaucoup de choses à la fois. Là, il y a un problème. Il y a des gens qui sont tellement multiples qu'ils ne savent plus très bien quel est le sujet, la chose qu'ils devraient faire en premier. Le programme compliqué de l'Église à l'heure actuelle est la preuve formelle que l'homme est pratiquement au contrôle absolument de tout. Le travail et la fonction de l'Église sont loin d'être simples, il est vrai, et de plus en plus, ils deviennent tellement compliqués. Quel contraste par rapport au début de l'Église ! Non seulement le travail de l'Église est embrouillé par beaucoup de choses, la vie de l'individu est aussi trop compliquée, et compliquée, on peut dire, à l'extrême. Je soumets trois textes simples et réconfortants. Dans ces textes, on ne trouve aucune théologie compliquée. Rien de difficile à comprendre, simplement une vérité fondamentale à propos de la vie chrétienne réussie. Ils viennent à nous du cœur du psalmiste, de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ et de la passion de l'apôtre, et le message est réellement unique et pas compliqué. Jésus-Christ pouvait dire « Mon fardeau est léger et mon joug facile à porter. » Et ceci à cause de l'unique objectif de sa vie. Il a dit aux disciples au puits de Sichar « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Saint Jean chapitre 4 verset 34. Ceci était beaucoup plus important pour lui que ce que nous appelons les nécessités de la vie, et plus important que la nourriture et la boisson qu'il lui offrait. Jésus-Christ cita, lorsqu'il fut tenté par Satan, ceci : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Saint Matthieu chapitre 4, verset 4. Donc, faire la volonté de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu était vraiment son objectif. Et Jésus-Christ voudrait que nous sachions que cela n'est pas aussi difficile que nous pourrions le penser. Un but unique n'est jamais aussi difficile qu'un objectif divisé. Pourquoi vouloir tout faire à la fois? Et c'est pourquoi un motif mitigé qui rend la vie difficile, il faut y réfléchir à l'avance. Le psaume chapitre 27 est vraiment un merveilleux psaume. Il ne fait aucun doute que David s'encourageait tandis qu'il le composait. Il a dû avoir de nombreuses craintes. Il aurait pu être perturbé par ses nombreux ennemis. Il prévoyait de le renverser et même de le tuer. Il campait, si on se souvient, autour de lui, en guerre en quelque sorte, ou pour la préparation d'un mauvais coup, et se préparait vraiment à cela. Il réalisa donc que le secret de son salut, de sa sécurité et de sa victoire, surtout, n'était pas tant par le combat avec l'ennemi que sa relation avec Dieu. Et cela est vraiment important de s'en souvenir. Et croyez-moi, l'Église ferait bien mieux de tirer une leçon de David. Beaucoup trop souvent, nous essayons de faire des plans contre les incursions de l'ennemi. Le secret de notre victoire se trouve toujours dans notre relation avec Dieu. L'Église, ainsi que l'individu, a besoin d'être certain qu'elle est dans la volonté de Dieu et en contact avec Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit sur chacun de ses comportements. David dit ceci, « En cela j'ai confiance ». Et je crois qu'il fait référence au verset 4 du psaume 27. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire vraiment ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » En résumé, son désir est de demeurer régulièrement, de contempler constamment et d'admirer continuellement. Et la seule exigence, oui, pour la réussite et la victoire, se trouve donc dans le fait de demeurer en Christ et d'y demeurer constamment. Dans notre second texte, nous sommes amenés à Béthanie. Jésus-Christ était reçu chez Marthe. Elle était celle qui était, on peut dire, un peu agressive, celle qui était active. C'était quand même sa maison et elle dirigeait bien les choses. L'échec de l'Église provient trop souvent du fait que l'on mette ce genre de personne en fonction au lieu de quelqu'un qui passe du temps assis aux pieds de Christ. Les choses allaient donc bon train lorsque Jésus-Christ est arrivé. Et Marthe s'inquiétait, et oui, de faire une certaine impression devant son invité de marque. Mais elle ne put pas susciter de l'enthousiasme chez Marie. Marie n'était pas impressionnée par les activités, elle était surtout captivée par la présence de Jésus-Christ. Donc, Marthe était contrariée par le fait que Marie ne soutenait pas son programme. Marie n'était pas assez pratique. Finalement, Marthe, elle alla directement trouver Jésus-Christ à propos de cette affaire, espérant son approbation. Elle lui dit, « Mais ne remarques-tu même pas tout ce que je suis en train de faire, tout le travail? Pourquoi ne dis-tu pas quelque chose à Marie pour qu'elle m'aide un peu ?» Elle avait un moment difficile, il est vrai, avec son programme, et elle essayait d'obtenir la bénédiction de Jésus, mais elle fut réprimandée par le maître. « Marthe, Marthe, mais tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est vraiment nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Saint Luc, chapitre 10, versets 41 et 42. Nous savons tous, nous savons quelque chose de la pression et des activités qui nous tient éloignés de notre maître. Et parfois, nous ne sommes pas compris par nos frères et sœurs lorsque nous refusons d'être surchargés de responsabilités et d'activités. Mais la plupart d'entre nous, laïcs, chrétiens ou responsables d'église, connaissent peu de choses à propos de cette chose très importante. Nous avons des églises actives et des programmes surchargés, il faut bien le dire. Mais combien peu de fois annulons-nous toutes les activités et attendons-nous simplement devant le Seigneur? C'est l'unique chose extrêmement importante et nécessaire. C'est la bonne part. Et on peut dire la bonne part de la personne avec cet objectif de cœur, car elle ne lui sera pas ôtée, mais bien au contraire. Nous savons tous que la vie de Saint Paul fut remplie d'une activité chargée. Et comment? Mais, voyez-vous, le secret de sa réussite repose dans le fait qu'il a passé beaucoup de temps avec le Seigneur avant même qu'il commence son ministère public. Il y avait beaucoup de choses que Saint Paul ne comprenait pas à propos de l'amour que Dieu lui portait et du plan de Dieu pour sa vie. Mais sachant que toute la plénitude de la divinité se trouve en Jésus-Christ, selon Colossiens chapitre 2 verset 9, l'apôtre Paul avait une passion unique en et pour Jésus-Christ. Et il le résume dans le chapitre 3 de l'épître aux Philippiens, que je puisse gagner Christ, que je puisse être trouvé en lui, que je puisse le connaître, versets 8 et 10. Donc, son ambition comprenait la connaissance de la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances et d'être rendu conforme à sa mort. « Je fais une chose, disait l'apôtre. » Vous avez entendu, une chose. Et son but unique, son unique objectif, le prix du grand appel de Dieu en Jésus-Christ, voulait la communion avec Christ au degré le plus haut qu'il puisse atteindre vers les sommets de sa gloire. Voyez-vous, chers amis, à l'heure actuelle, nous avons une chrétienté intellectuelle qui est faite d'un enseignement doctrinal très, très compliqué. Nous avons nos formes de théologie systématique, mais nous apprenons seulement des choses à propos de Christ. L'apôtre Paul ne disait pas qu'il souhaitait en savoir beaucoup plus à propos de Christ, mais il désirait le connaître personnellement. Je répète, il désirait connaître Christ personnellement, pas seulement savoir des tas de choses sur lui. Et d'après le second chapitre de l'Épître aux Philippiens, le Seigneur Jésus-Christ obtient sa position forte par des étapes successives vers le bas dans l'humilité et dans la souffrance. Donc, pour connaître Christ et atteindre sa place élevée, nous devons passer par le chemin de la croix. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que simplement connaître des milliers de choses à la fois. Pour l'Église, à l'heure actuelle, la croix n'est qu'un emblème. Et nous avons oublié la souffrance et la honte. Cela coûte de connaître Christ, et l'apôtre Paul le réalisa pleinement. Il écrivit aux Philippiens, « Christ sera magnifié dans ma vie, que ce soit par la vie ou par la mort. » Combien il était différent des chrétiens que nous avons dans l'Église en général et à l'heure actuelle. Car si le service demande des souffrances et des désagréments, nous ne sommes pas trop intéressés. Si la croix de Christ doit conduire en avant, comme nous le chantons, il doit y avoir des individus qui veulent être crucifiés, qui veulent payer le prix pour connaître vraiment Christ dans l'esprit, dans leur esprit et dans leur cœur et leur âme. En fusionnant nos trois textes, eh bien, nous avons une devise formidable. Une chose je désire ardemment, mais une seule chose est vraiment nécessaire. Oui, je fais donc une chose. Rester avec Christ adoré à ses pieds, triompher avec lui dans sa gloire éternelle, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Avec le monde et le service charnel, il y a de nombreuses choses, des intérêts divisés, la dissipation carrément des forces. Et dans la volonté de Dieu, il n'y a qu'une chose, c'est la simplicité, c'est la concentration du temps et de l'effort. Cela ne veut pas dire que nous ne pourrons pas faire beaucoup de choses si nous observons l'unique chose absolument nécessaire. Elle nous empêchera pas du tout d'être prudents et encombrés. Elle nous élèvera au-dessus de l'instinct et de la pression. Nous ne nous réveillerons plus le matin totalement troublés, mijotant et nous tracassant à propos de tout ce que nous avons à faire. Nous nous rappellerons l'unique chose qui est absolument nécessaire. Nous prendrons du temps pour nous attendre au Seigneur et pour nous asseoir à ses pieds pour écouter sa parole, comme l'a fait Marie. Ensuite, nous sortirons pour affronter la journée de travail. Nous nous inquiétons à propos de beaucoup de choses, c'est vrai, les problèmes familiaux, les difficultés ecclésiastiques, l'avenir de notre santé, la situation mondiale, etc. Mais une seule chose est vraiment nécessaire, rester en contact avec Dieu et en ligne avec lui. Demeurer en lui, surtout, le contempler constamment, s'enquérir de lui continuellement, être trouvé en Christ, continuer de le connaître, cela devrait être notre plus grand désir. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas faire le reste, évidemment, hein, on comprend bien. Mais Christ devrait venir à la première place. Prosternez-vous dans une profonde humilité à ses pieds. Et nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, c'est vrai, mais assurons-nous que nous lui faisons plaisir à notre Seigneur. Nous ne pouvons pas faire tout ce qui nous est demandé ou coopérer avec chaque programme trouvé dans l'Église et autour de l'Église. Mais nous pouvons et nous devons faire tout ce qu'il veut que nous fassions. C'est là l'unique chose nécessaire. C'est là le seul objectif chrétien simple. Jésus-Christ et lui seul. Une chose que je désire ardemment, mais une seule chose est vraiment nécessaire. Oui, en effet, je fais une chose, c'est faire la volonté de Dieu, même si c'est que de donner un simple évangile de Saint Jean. Souvenez-vous, une seule âme de sauver, la Bible dit que tout le ciel se réjouit et en plus que de nombreux péchés te seront pardonnés. C'est pas moi qui le dis, c'est la sainte parole de Dieu. Et notre deuxième étude concerne la cité céleste. Vu le grand nombre de citations bibliques, chers amis, je vais les dire lentement. Langsam, aber sicher. Donc, la Bible nous dit Christ est le Seigneur et nous sommes ses serviteurs. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Christ est le souverain et nous sommes ses sujets. Jude, verset 4. Christ est le commandant en chef et nous sommes ses soldats. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Voir également Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 17. Et il est dit, les rachetés sont son peuple. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14, ainsi que 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, 1er Épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, et Tite, chapitre 2, verset 14. Ils sont co-citoyens avec les saints. Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Ils sont un royaume de sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1, verset 6, ainsi que la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. L'Église a la nature d'un État. Sa cité est dans le ciel. Philippiens chapitre 3, verset 20. Ses citoyens sont dans le royaume du Fils. Colossiens chapitre 1, verset 13. Il rendrait manifeste le royaume de Dieu. Romains chapitre 14, verset 17. Il prêche donc le royaume. Actes chapitre 20, verset 25. Ainsi, versets 28 et 31. Une loi relève du royaume, car au royaume du Fils, c'est la loi de Christ. Galates, chapitre 6, verset 2. Donc, croire, c'est en même temps obéir. Donc, avoir confiance, c'est être digne de confiance. Pour ces deux expressions, le grec n'a qu'un seul et même mot, c'est pist c'est l'apôtre Paul. C'est Paul, notre apôtre de la liberté, qui parle de garder les commandements, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19. Et lui-même donner des ordres, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Pour lui, l'incrédulité est semblable à la désobéissance, Romains chapitre 10, verset 3. Pour lui, la conversion est un acte d'obéissance et de soumission, et le message de l'Évangile est un appel à la repentance, Actes des apôtres, chapitre 17, verset 30. Racheté de la loi du péché et de la mort, Romains chapitre 8, verset 1 et 2, et libéré également de la loi de Moïse, Romains chapitre 3, verset 21. Le croyant n'est en aucun cas sans loi, 1 Corinthiens 9, verset 21, et Galates chapitre 5, verset 13. Mais il est désormais sous la loi de Christ, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. Il doit accomplir la loi de Christ, Galates chapitre 6, verset 2, et marcher dans l'obéissance de la foi, Romains chapitre 1, verset 5, verset 15 et 18. La grâce surabondera, Romains chapitre 5, verset 21. Cette loi du Nouveau Testament, c'est, quant à son origine, la loi de Christ, Galates chapitre 6, verset 2. Quant à sa nature, la loi de la liberté, Jacques chapitre 1, verset 25, ainsi que chapitre 2, verset 12. Quant à son contenu, c'est la loi de l'amour, Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Comparé également avec Jacques chapitre 2, verset 8. Quant à sa force, c'est la loi de l'Esprit Saint, Romains chapitre 8, verset 2. Quant à son effet, c'est la loi de l'Esprit de vie, Romains chapitre 8, verset 2. Quant à sa valeur, c'est la loi parfaite, Jacques chapitre 1, verset 25. Quant à sa dignité, c'est la loi royale, Jacques chapitre 2, verset 8. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, l'homme se tenait sous la loi de Dieu, Yahvé l'Éternel, en tant qu'homme naturel. Il était dans la chair, d'où l'impuissance de la loi, selon Romains chapitre 8, verset 3. Mais dans le Nouveau, ou si vous voulez, dans la Nouvelle Alliance, il est un homme nouveau, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il est dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit, d'où enfin sa victoire, Romains chapitre 8, verset 1 à 4. Dans l'ancienne, on peut dire, alliance, la loi s'approchait de l'homme de l'extérieur, et ceci sur des tables de pierre comme des lettres qui tuent, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3 et verset 6. Mais dans la nouvelle alliance, elle est mise dans son esprit. Hébreux chapitre 8, verset 10, ainsi que Romains chapitre 6, verset 17. Elle est écrite sur des tables de chair, et ceci sur les cœurs, dans son esprit, avec l'esprit du Dieu vivant. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Ainsi, chers amis, l'Église est un peuple merveilleux. C'est une nation sainte, selon la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Son souverain, c'est Christ le Seigneur. Jude, verset 4. Sa loi, c'est sa volonté. Galates, chapitre 6, verset 2. Ses richesses sont sa gloire. Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Sa louange, c'est son honneur. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 31. Sa communion en tant que peuple, c'est son amour. Évangile de Saint Jean, chapitre 13, verset 34. Son domaine, c'est la terre tout entière. Romains, chapitre 10, verset 18. Sa capitale, c'est la Jérusalem céleste. Galates, chapitre 4, verset 26. Chers amis, la Bible nous dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit ». Ça, c'est important de nous en souvenir. Et ensuite, il est encore dit « Et examinez toutes choses ». 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Ça vaut la peine de répéter. N'ajoutez pas foi à tout esprit et examinez toutes choses. Rien n'est donc plus nécessaire à l'heure actuelle que d'examiner toutes choses et dans le sens des expériences spirituelles. Il est essentiel de noter, premièrement, il y a la possibilité qu'un chrétien puisse être trompé, et ceci pour les raisons suivantes. Allons essayer de voir cela. A. Lorsqu'un homme devient enfant de Dieu par la puissance de régénération de l'Esprit Saint, lui donnant une nouvelle vie, alors qu'il se confie dans l'œuvre expiatoire de Christ, il ne reçoit pas en même temps une plénitude de connaissances, soit de Dieu, de lui-même ou du diable, et Dieu ne lui donne pas non plus une connaissance au-dessus de son étape de petite enfance dans la vie spirituelle. B. L'intelligence qui par nature est obscurcie, selon Éphésiens chapitre 4, verset 18, est sous un voile créé par Satan. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, est non seulement renouvelé, et le voile détruit. Et ceci au point que la lumière de la vérité pénètre l'intelligence et que l'homme est capable de comprendre. Et cela laisse le voile de Satan existant à des degrés variés sur l'intelligence de chaque croyant sans exception. C'est La tromperie, elle est en rapport avec l'intelligence et signifie une fausse pensée reconnue par l'intelligence sous la foi qu'elle est la vérité. Puisque la tromperie est fondée sur l'ignorance et non sur le caractère moral, un chrétien qui est vrai et fidèle par rapport à la connaissance qu'il peut, à son insu, être ouvert, il peut être ouvert à la tromperie, à son insu, dans le domaine où il ignore les ruses du diable. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Donc, un chrétien fidèle et vrai risque donc d'être trompé par le diable dans n'importe quelle sphère où il est ignorant. Une connaissance seulement supposée est aussi dangereuse que l'ignorance, puisque elle ferme l'intelligence à la vérité. D. La pensée que Dieu protégera un croyant d'être trompé par Satan s'il est vrai et fidèle est en soi une tromperie parce qu'elle le débarrasse de ses gardes et ignore le fait qu'il y a des conditions de la part du croyant qui doivent être remplies pour que Dieu puisse agir. Dieu ne fait rien à la place de l'homme, mais par la coopération de l'homme avec lui. Là, c'est tout autre chose. Dieu agit. Il n'entreprend pas non plus de compenser l'ignorance d'un homme lorsqu'il lui a fourni une connaissance qui l'empêchera vraiment d'être trompé. Et, enfin, je crois que vous dites en français « Christ n'aurait pas mis ses disciples en garde quand il a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Il n'y avait pas de danger qu'il le soit. Ou si Dieu les protégerait de la tromperie indépendamment de leur mise en garde et ayant connaissance d'un tel danger. La connaissance qu'il est possible d'être trompé garde l'intelligence ouverte à la vérité et à la lumière venant de Dieu. Elle est l'une des premières conditions pour garder la puissance de Dieu. Tandis qu'une intelligence fermée à la lumière et à la vérité, est une garantie certaine de tromperie par Satan à sa toute première occasion. Deuxièmement, nous avons l'importance de conserver l'équilibre dans la vérité. La vérité a toujours deux faces. Nous vivons avec le Christ ressuscité dans un nouveau domaine où Satan n'a aucune place, parce que Christ est tout en tout, en ce qui concerne notre position spirituelle. L'apôtre Paul montre ceci en Éphésiens chapitre 2, verset 6. Mais dans la même épître, il fait la déclaration d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, où il dit « Nous luttons contre, etc. » « Nous luttons contre », montrant ainsi que tandis que notre rang et notre position sont surtout en vivant avec le Christ ressuscité, que en réalité, les forces des ténèbres contesteront. Ils contesteront le fait que nous demeurions dans cette position et elles attaqueront par tous les moyens, imaginables, l'homme extérieur, d'où la nécessité d'une armure de vérité, de droiture, etc., tandis que toute la force de la volonté est indiquée dans le mot « prenez ». Oui, prenez part au combat. Je répète, prenez part au combat, car Christ est notre vie. Colossiens chapitre 3, verset 4. Christ est la force qui nous inspire, mais nous vivons aussi en tant que personnes responsables pour agir et de faire appel à sa vie. Notez Galates chapitre 2 verset 20 ainsi que Philippiens chapitre 1 verset 21. Les deux aspects diffèrent ou différents de la vérité sont parfois vus dans une face avec plus de perspicacité que l'autre, car différents croyants, oui, par différents croyants, on peut dire que cette perspectivité est vue, et ensuite, ils sont donc portés à opposer le côté qu'ils voient pas comme étant non scripturaire. Je répète, les deux aspects différents de la vérité sont parfois vus dans une face avec plus de perspicacité que l'autre et par différents croyants. Et ensuite, ils sont portés à opposer le côté qu'ils ne voient pas comme étant non scripturaire. Donc, les activités de la nature entravent le Saint-Esprit. Mais la suppression de la nature, elle cède la place au mauvais esprit, puisque Dieu nous donne, oui, des intelligences spirituelles. Et ceci pour saisir et garder la vérité en équilibre. Je répète, les activités de la nature entrave carrément le Saint-Esprit. Mais, heureusement, la suppression de la nature, elle cède la place au mauvais esprit. Puisse donc notre Dieu nous donner des intelligences spirituelles, et ceci pour saisir et pour garder la vérité en équilibre. Troisièmement, nous avons la nécessité de rechercher la puissance pour discerner toute la vérité. Les puissances des ténèbres prennent à l'heure actuelle l'avantage d'une opinion fausse de la vérité. La vérité de Dieu demeure inébranlable, mais la conception de l'homme de cette vérité peut totalement le tromper. Toute matérialisation des choses spirituelles peuvent ouvrir la porte à l'erreur. Il suffit de voir la matérialisation de Saint Jean chapitre 6. La vérité de la présence réelle et spirituelle, non dans du pain matériel. De même, avec le baptême de l'Esprit-Saint, le réveil à la vie du corps mortel par la vie du Christ habitant dans le cœur du croyant, et même la vérité du Christ demeurant, qui demeure dans ce cœur, Donc, la matérialisation de ces faits spirituels peuvent ouvrir la porte aux esprits enseignants. Aux esprits enseignants qui ne sont pas les bons, croyez-moi. Et donc, ces esprits-là peuvent, et pas seulement peuvent, elles viennent carrément de l'ennemi, elles peuvent fourmiller maintenant même parmi le peuple de Dieu. Et cela est une réalité. Or, le revêtement de puissance pour le service, il est réel. Et l'Église de Christ, à l'heure actuelle, elle récolte les fruits provenant de ceux qui ont connu ce revêtement. Mais le fruit qui demeure, il vient de ceux qui ont gardé l'usage de leurs facultés. Comme l'a fait Finet et d'autres, et qui ont contrôlé leur corps dans un tel revêtement, et pas tellement de la part de croyants avec des visions anormales, qui dans de nombreux cas, en quelques mois courts, ont eu pour conséquence l'effondrement carrément du destinataire. Il en est donc de même avec la vie régénérante du Seigneur ressuscité, selon Romains chapitre 8, verset 11. Il y a, chers amis, de nombreuses personnes qui, dans leur faiblesse, ont été rendues fortes par cette vérité. Mais ce n'est pas à partir de sensations conscientes dans le corps qui, dans le temps, affaiblissent vraiment les corps mêmes que les émotions sont supposées de fortifier. Je dis, encore une fois, il y a de nombreuses personnes qui, dont leur faiblesse, ont été rendues fortes, gloire à Dieu, par la vérité de Christ. Mais ce n'est pas à partir de sensations conscientes dans le corps qui, dans le temps, affaiblissent vraiment les corps mêmes que les émotions sont supposées de fortifier. Le fait spirituel, chers amis, de celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Et Christ vit en moi, c'est une réalité vivante et claire et absolument vraie, mais aucun enfant de Dieu qui est sérieux et enseigné par l'Esprit Saint avec une compréhension spirituelle et une connaissance de l'Écriture sainte ne dira que c'est si littéralement un fait au point d'éliminer le moi à un point tel qu'il rend le croyant infaillible dans son jugement et ses actions. La mauvaise vie du moi doit absolument aller à la croix, d'après Romains chapitre 6, verset 6. Mais le moi, comme dénotant une personnalité humaine, demeure pour être gardé en conformité à la mort et à la vie de Jésus-Christ. Il n'existe aucun exode de la vie du moi dans la mort de Christ, aussi absolu au point d'éliminer la responsabilité personnelle du croyant. Nous devons être des chrétiens responsables. Le manque de compréhension des principes fondamentaux reliés au rang et à l'expérience ou à la vérité objective ou subjective, nous rencontre absolument chaque jour, de tous les côtés. Et parfois, un enseignant met l'accent sur le rang ou sur l'œuvre complète de Christ, et un auditeur voit la vérité, il s'en empare, et dès lors, il affirme que tout en lui est vrai, oublieux du grand désaccord entre sa foi et sa pratique. Un autre, par exemple, voit ceci et met l'accent sur le subjectif ou l'aspect expérimental. Et puisqu'il faudra toute la vie pour avoir l'œuvre complète de Christ, il faut bien toute une vie, sur la croix réalisée dans l'expérience, eh bien elle ne finit qu'avec la transformation du corps. Philippiens chapitre 3, verset 21. Et ces croyants deviennent submergés dans le côté expérimental de la vérité sans un aperçu de l'objectif avec sa note glorieuse de la victoire. L'équilibre de la vérité entre le divin et le côté humain est si délicat qu'il semble qu'il n'y ait aucun être humain sur la terre qui la tienne parfaitement dans chaque aspect de la vérité. Tournons-nous où nous le voudrons, nous voyons même les croyants les plus posés basculer plutôt d'un côté ou de l'autre. Certains, dans une prudence extrême, qui les aveugle aux aspects de la vérité nécessaire pour fortifier en maturité de ce qu'ils savent déjà. Et d'autres, avec un abandon insouciant, tombent tête la première dans des pièges qu'ils n'ont pas vus du tout. Partout, l'unique besoin est la reconnaissance du fait qu'aucun croyant, quel qu'il soit, est l'unique détenteur de toute la vérité, et qu'aucun croyant n'est un guide absolument infaillible dans toute la vérité. Je répète, partout, l'unique besoin est la reconnaissance du fait qu'aucun croyant, quel qu'il soit, qu'il ait fait la Sorbonne ou l'université de Tübingen, est l'unique détenteur de toute la vérité, et qu'aucun croyant n'est un guide infaillible dans toute la vérité. Combien dès lors devons-nous être patients avec les autres, selon 2 Timothée, chapitre 2, verset 24, soyons patients avec ceux que nous voulons aider, et nous devons veiller sur nous, selon Romains, chapitre 12, verset 3, et Galates, chapitre 6, verset 1. Par elle, l'Esprit béni de Dieu continue d'œuvrer patiemment. Si seulement il pouvait trouver tous les membres du corps de Christ déterminés à unir sur toute la vérité ce sur quoi ils sont d'accord, c'est-à-dire, premièrement, sur la croix expiatrice, et il pourrait plus facilement tempérer le corps en tant qu'ensemble et ainsi de donner plus vite la lumière sur la structure lecture de vérité qui est absolument nécessaire pour son avancement dans les choses de Dieu. Chers amis, nous allons terminer ensemble dans la prière, mais je voudrais vous dire les paroles d'un ancien cantique qui est très intéressant. Croyez-moi, très intéressant. Il dit ceci: ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus-Christ, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je suis plein d'espérance et je marche sans peur. Ô que toute la terre apporte à son Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs et son amour insondable lui fit quitter le ciel pour proposer aux coupables un salut éternel. Prions. Seigneur Dieu, prête l'oreille à mes prières. Mon roi et mon Dieu, sois attentif à la voix de mon cri, car c'est toi que je prie. Éternel, dès le matin tu entends ma voix, dès le matin je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à l'iniquité. Le méchant n'habitera point avec toi. Mets-moi dans l'abondance de ta grâce. J'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté en ta crainte. Que tous ceux qui se retirent vers toi se réjouissent, qu'ils chantent de joie à jamais. Sois leur protecteur, et que ceux qui aiment ton saint nom triomphent en toi. Car toi, ô Éternel, tu bénis le juste, tu l'environnes de ta bienveillance comme d'un bouclier. Amen. Amen. Et chers amis, en effet, il est vrai que le Seigneur aime tous ceux qui l'ont accepté dans leur cœur. Cela est une réalité et on le comprend. Il ne peut pas être joyeux, heureux de voir qu'il y en a des millions qui s'éloignent de lui, qui se moquent de lui, qui le renient, qui disent qu'il n'existe même pas, mais que ceux qui ont compris qu'ils étaient des pécheurs perdus, perdus pour l'éternité, et qui ont accepté la main tendue, qui ont accepté qu'il est mort à la croix pour donner son sang, pour donner sa vie, pour nous sauver, tout cela, eh bien, il les bénit. Il les aime. Oui, croyez-moi, Dieu vous aime. Soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à bientôt, à nouveau, Au revoir, très chers amis.